7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un homme ? Presque un an après l'affaire Weinstein et la libération de la parole des femmes sur le harcèlement sexuel, où en sont les hommes ? Bien au-delà des questions sexuelles, où en sont les hommes avec la conquête des droits des femmes ? Au travail, en politique, dans la famille, partout, elles demandent des places. Elles formulent aussi dans le couple des exigences, parfois pour le moins paradoxales, soit tendres et guerriers. Alors en quoi les codes de la virilité ont-ils changé ? Qu'est-ce que l'identité masculine aujourd'hui ? Les voisins, regardez votre vie en face, là, maintenant, et puis celle des autres aussi, où que vous soyez dans le monde. On attend vos appels, faites-nous part de vos désarrois ou de vos certitudes en ce début de 21e siècle. Et les voisines, chez vous, dites-nous ce que vous attendez aujourd'hui des hommes. Est-ce que dans le fond, tout a changé ou rien n'a changé ? Appelez-nous surtout dès maintenant, on est en direct, 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp, mais ne nous envoyez plus de messages audio, l'émission démarre et évidemment, on vous veut en direct, surtout si vous êtes un homme. Dans le studio, zéro parité, Ismaël Khalifa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur, auteur de documentaires, vous publiez « Mal d'hier, homme d'aujourd'hui, les confidences du pénis ». Les hommes que vous avez rencontrés ne sont ni paniqués, ni révoltés, mais ils se sont livrés avant l'affaire Weinstein d'ailleurs, en partie.
Oui, tout à fait, mais pour avoir contrôlé après, rien n'a changé.
Vous n'avez pas changé de position.
Ce sont des hommes sur deux, c'est très viril d'être sûr de soi et de sa masculinité.
Alexandre Devecchio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de Figaro Vox, plateforme de débat et opinion du Figaro. Vous avez entre autres publié « Les nouveaux enfants du siècle » aux éditions du CERF, dont vous faites partie, hein, puisque vous avez quel âge ?
Oui, j'ai 30 ans. 30,
vous avez l'air d'hésiter.
31 ans.
31 ans, c'est ça.
Ça fait mal.
Et vous, Ismaël ?
J'ai 39 ans dans un mois.
En tout cas, Alexandre Devecchio, vous vous êtes tantôt présenté dans les médias comme cette génération qui vomit son époque, tantôt comme celle qui l'interroge. Nous serons aussi en ligne avec notre correspondante au Canada. Elle nous parlera du psychologue universitaire Jordan Peterson qui cartonne sur YouTube, plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne, pour sa version de l'homme. Allez, je vous livre quelques réactions sur les réseaux sociaux chez nous. Un voisin qui nous écrit de N'Djamena au Tchad. En Afrique, l'homme dans la société est le maître de tout. Dans la famille, c'est un lion qui n'a jamais tort. C'est lui qui a le dernier mot, même si ses idées ne tiennent pas et il ne veut pas qu'on le contredise. Comme un écho aux Comores, une voisine qui veut rester anonyme. Mon conjoint veut contrôler tous mes faits et gestes. Il prend des décisions sans mon avis. Si je fais une remarque, ça devient infernal. Il ne veut pas dialoguer, il dit ce qu'il a à dire sans se soucier si cela me blesse. J'aurais aimé, poursuit cette voisine, qu'il soit mon partenaire avec qui on peut tout partager, mais il dicte ma vie. Je l'aime, mais ce comportement m'éloigne de lui de plus en plus. Gaius est un voisin de 19 ans à Mbujimayi, en République démocratique du Congo. Le droit des femmes remet en question le rôle des filles dans les familles. À l'école, quand il faut nettoyer, les filles ne comprennent pas pourquoi les garçons ne veulent pas nettoyer. Et en tant que jeune adulte, moi, eh bien, j'ai du mal à voir ce qui nous attend dans nos foyers. Peut-être un début de réponse pour Gaius, qu'est-ce qu'il attend ?
Bonne chance Gaius. Ce qu'il attend, c'est peut-être ce qui, je connais pas assez ce pays, mais c'est peut-être ce qui attend les hommes dans les foyers en France, en tout cas où cette situation a très fortement changé et où les femmes ne veulent plus être les seules à nettoyer, effectivement.
Oui, bah ça permet de mesurer le décalage peut-être qu'il y a aujourd'hui dans la civilisation occidentale. Moi, je mets en doute
l'heure de ménage fait par les femmes au foyer, ça n'a pas beaucoup diminué.
Ça n'a pas beaucoup diminué, mais bon, en classe, les enfants, je pense, rangent aussi bien que les petits garçons que les petites filles. Je crois que les choses ont beaucoup changé. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que l'idée d'une domination patriarcale, voilà, dans les pays européens ou occidentaux aux États-Unis me paraît être aujourd'hui une fiction.
Appelez-nous en tout cas pour réagir. 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ?
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi ?
J'y refais le monde avec 7 milliards de voisins.
Bonjour madame, je fais un micro-trottoir qui s'adresse aux femmes sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui.
Bah, ils ont des attitudes sympas, les pères de famille s'occupent plus de leurs enfants. Moi je trouve qu'ils évoluent bien.
Je pense que les standards voudraient qu'un homme ce soit quelqu'un de masculin, mais aujourd'hui on a quand même assez évolué. Et je pense qu'un homme c'est à lui de choisir qui il a envie d'être, comme pour les femmes en fait.
Pourquoi c'est compliqué d'être un homme aujourd'hui?
Ils n'ont plus trop leur place en fait, par rapport aux femmes qui travaillent, qui sont indépendantes. J'ai l'impression, moi, qu'ils ne savent plus comment devoir se comporter.
Et alors, quel message il faut leur envoyer aux hommes, du coup?
Ben, lâchez-vous et puis soyez galants et ne pensez pas que toutes les femmes forcément veulent votre fric ou voilà, vous marchez dessus. Nous, on ne veut pas prendre la place des hommes.
Vous voulez quoi, alors?
Ben, on veut juste qu'ils nous regardent et qu'on se sente exister. Voilà.
Il n'y a plus de vrais hommes aujourd'hui, en tout cas, de toutes les façons. Ils sont tous pareils.
Qu'est-ce que c'était un vrai homme?
Bah, un homme qui savait respecter la femme, qui savait s'occuper de la femme, qui considérait la femme. Aujourd'hui, hein, les hommes, excusez-moi, c'est que...
Ça manque de galanterie,
c'est que... du cul, excusez-moi. Bah voilà.
Là, on a l'impression que tous les hommes sont mauvais et que les femmes seraient toutes victimes, mais c'est pas le cas. Alors certes, il faut le dire quand ça se passe. Ça, c'est une bonne chose qu'il y ait des femmes qui ont pu extérioriser les choses parce qu'il y a ce mouvement Balance ton porc. Enfin, je veux dire, on n'a pas toutes été agressées. Il faut aussi relativiser. Enfin, faut pas exagérer non plus. Il y en a encore quelques-uns de bien, je pense.
L'homme du futur, quoi, idéalement, à quoi il ressemblerait pour vous?
Bah, il serait comme à l'époque de nos parents.
Bah non, il travaillerait beaucoup pour pouvoir me rendre fière et m'acheter tout ce que je veux.
C'est nous les princesses.
Ouais,
et vrai. On avait dit qu'on ne devrait pas travailler. Maintenant, les filles, on travaille, on va à l'école, on peut être chef d'entreprise, tout ça. Enfin, on arrive à une époque où c'est comme ça. Mais que l'homme soit aussi quand même devant, qu'il prenne les choses en main, qu'il travaille. Enfin voilà quoi.
Notre revenu, c'est le nôtre, c'est pour nous. Nous faire plaisir, eux, ils s'occupent du reste. Comme mon père, il s'occupe de ma mère.
Voilà, exactement.
Une définition de ce qu'est-ce qu'un homme, ça devrait être l'égal de la femme, dans les deux sens. Un compagnon, un camarade de vie, quelqu'un comme nous, quoi, mais à l'égal. Okay. Voilà. Mais on a tendance à leur demander plein de trucs, alors ils sont un peu perdus, je trouve.
Oula, en fin de semaine, vous me posez ce genre de questions. Non, non, revenez me voir lundi, en début, désolée.
Voilà pour la partie des filles, une toute petite partie de la diversité des opinions recueillies dans la rue par Inès Edel Garcia, à Ismaël Khalifa, Alexandre Devecchio. On va revenir à l'affaire Weinstein, puisque beaucoup ont dit que c'était un tournant, un symbole. Si oui, de quoi au juste finalement le déverrouillage de la parole des femmes grâce à MeToo, grâce à Balance ton porc?
Alexandre, je ne suis pas sûr que ce soit ni un symbole, ni un tournant, et encore plus quand j'écoute votre micro, votre trottoir. Tout à l'heure, je parlais du décalage entre l'Occident et d'autres pays, et là, je dirais le décalage entre le buzz médiatique de plusieurs mois partant d'une affaire
médiatique
qui concerne...
Médiatique et les réseaux sociaux aussi.
Et les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, quand on regardait bien, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de c'était une certaine classe sociale d'ailleurs, et quand on interroge la femme de la rue, on a l'impression qu'elles ne sont pas tellement concernées par ça, voire même qu'elles trouvent ça légèrement excessif. Donc j'ai tendance à penser que peut-être c'est une forme de lutte des classes, dans une classe assez particulière, des milieux plutôt aisés, du journalisme,
vous êtes en train de
des
dire
acteurs d'Hollywood, et une sorte de revanche, quoi. Oui. Je l'ai vu, moi, plutôt comme ça. Et puis en plus, Hollywood, c'est quand même pas représentatif du reste de la société. C'est quand même quelque chose de très particulier, le cinéma, avec des codes qui sont quand même très différents du reste de la société, et depuis toujours.
Oui, mais Balance ton porc, c'était pas Hollywood en France.
Non, mais encore une fois, moi je pense que ça a été un mouvement essentiellement médiatique.
Donc,
certes, il y a eu les réseaux sociaux, mais
ça
a été plus un épiphénomène. Après, c'est quand même un phénomène, je pense, inquiétant pour deux raisons. D'abord parce qu'il a été, à mon avis, excessif, et qu'il y a un caractère revanchard qui, moi, me dérange, vouloir nous entraîner dans une guerre des sexes, alors qu'à mon avis, on a dépassé
nous, les hommes.
Cela. Oui, et la deuxième chose, c'est que c'est aussi... quelque chose qui est lié à aussi une vision du monde qui se propage dans l'université. D'abord, d'ailleurs, dans les universités d'Amérique du Nord, il y a quelques années aujourd'hui, qui revient en boomerang, une vision de l'humanité totalement indifférenciée, où on aurait une identité fluide. Or, je ne suis pas du tout pour un déterminisme biologique, mais je crois qu'il y a malgré tout des différences entre les hommes et les femmes, voire une complémentarité que j'aimerais pas perdre, mais c'est quelque chose qui est poussé par les élites, élites universitaires, élites médiatiques, élites politiques et artistiques, mais je suis pas sûr que c'est un écho très profond dans la population pour l'instant, et heureusement.
Alors, vous avez quand même prononcé dès le démarrage le mot complémentarité. Vous l'opposez à égalité ?
Non, pas du tout. Moi, je suis pour l'égalité des droits, mais il n'y a pas égalité absolue et parfaite dans la nature. La société doit permettre, bien sûr, aux femmes de faire leur place en termes de droits, en termes d'égalité salariale. Bien sûr que je suis pour tout ça, mais la femme ne doit pas être un homme comme les autres.
Je partage complètement ce qui vient d'être dit sur le fait que la femme ne doit pas être un homme comme les autres. L'égalité ne doit pas masquer la différence. Et c'est en tout cas ce que ressentent beaucoup d'hommes, moi, que j'ai pu interviewer, qui ont la pression qu'on voudrait les rendre plus light que ce qu'ils sont, pour les mettre dans une espèce de schéma un peu politiquement correct qui pourrait plaire aux femmes. Après, parler de la femme de la rue comme vous le faites, Alexandre, moi j'ai bien du mal parce que je ne sais pas qui est la femme de la rue. Parler de classes sociales différentes, en ce qui me concerne, j'ai rencontré des gens d'un peu tous les milieux pour faire ce livre. Moi, je ne viens pas de ces milieux justement journalistiques, élitistes, et je pense que quand même cette question de l'affaire Weinstein a suscité des débats un peu partout. Je prends le cas de deux personnes qui s'appellent Mohamed et Bernadette, qui vivent à Annecy, que j'ai rencontré récemment, et qui me disaient que dans leur couple, lui est musulman d'origine algérienne, elle est française, et dans leur couple, en fait, ils ont 77 et 68 ans, ils ont parlé de l'affaire Weinstein. Alors, ils ont parlé de l'affaire Weinstein en se disant un peu ce que disait Alexandre, mais on n'a plus le droit de rien faire. Alors voilà, il y avait cela qui sortait. Et en même temps, Bernadette disait, mais moi ce que je trouve formidable dans tout ça, c'est quand même qu'aujourd'hui ma petite fille, elle va pouvoir s'exprimer sur des choses que nous on trouvait honteuses à mon époque, et ça fait du bien d'avoir cette, si au moins ça permet cela à ma petite fille qui a 10-12 ans, eh bien au moins ce sera un gain. Et je pense aussi que pour ce que me disait Mohamed, c'est que lui il a pris conscience de l'ampleur en fait de ce que pouvait représenter l'agression sexuelle que peuvent vivre nombre de femmes dans notre société. Donc peut-être que c'est tournant ou événement historique, c'est l'histoire qui le dira. C'est très compliqué à dire 6 mois après, et moi ça m'énerve sans doute en tant que vous, ce côté buzz médiatique. Par contre, ça a quand même ouvert une brèche sur un temps court, sur cette réalité-là.
Où en sont les hommes aujourd'hui avec l'identité masculine? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Il suffit de regarder autour de vous, votre situation, votre vie personnelle, celle des autres. Nous vous accueillons en direct. Ibrahim nous appelle de Boaké dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins, Ibrahim. Vous avez dit en gros, au standard, moi je me sens à l'étroit.
Oui, parce que c'est devenu difficile d'être un homme aujourd'hui. Hein. Parce que vous avez d'un côté ce prisme qui veut qu'on soit autoritaire, parce que ça incarne l'homme, et de l'autre côté, vous avez le problème d'être galant dans une société où tout ce que vous faites est interprété. Je vous donne un exemple. Moi, il y a quelques jours de cela, j'étais sur un parking de supermarché, et il y a une dame qui avait du mal à porter ses courses. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller l'aider? Tout de suite, on pense tout de suite que vous venez parce que l'autre l'a dit, d'en venir contre toi, on pense tout de suite sexe, vous venez pour... Voilà. De l'autre côté, quand vous n'agissez pas, on dit que vous n'êtes pas galant. Et j'ai l'impression que l'émancipation des femmes se fait aujourd'hui, du droit des femmes se fait aujourd'hui au détriment des hommes, alors que ça devait se faire avec les hommes. Tous les hommes ne sont pas contre l'émancipation des femmes, pas du tout. Et c'est vraiment difficile à vivre aujourd'hui.
Vous en parlez avec vos amis, avec vos collègues?
Oui, bien sûr. Je suis dans un milieu aujourd'hui où vous avez des filles enseignants qui vraiment ont du talent. Et parfois, ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sortir d'une situation. Mais quand vous le faites, on soupçonne tout de suite de vouloir abuser ou bien de vouloir profiter d'eux. Vous voyez? Et quand vous ne faites rien, finalement, on dit, bon, écoutez, vous êtes indifférent.
Ouais. Faut dire qu'il y a pas mal d'ambiguïté dans les universités, entre universitaires, pour les carrières, etc. On ne va pas le nier, quand même, Ibrahim.
Je suis d'accord avec vous. Il est indéniable que les femmes ont longuement souffert de machisme. C'est indéniable. Et même aujourd'hui encore, dans la société où je vis, ça continue. Moi-même, aujourd'hui, chez moi, à la maison, quand je fais des tâches avec ma compagne...
C'est-à-dire
la maison. Par exemple, moi, j'aime bien faire la cuisine, vous ne faites pas la lessive ou la vaisselle à la maison.
Ouais.
Mais je suis obligé de me cacher. Ou parfois me justifier auprès de personnes à qui je n'ai même pas de compte à rendre.
De vous cacher auprès de qui? Auprès des voisins?
Mes voisins, ma famille même. Je suis obligé de... On me demande, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui fais la cuisine? Et madame? En fait, j'aime le faire. Je veux qu'elle... Quelle chose que je peux faire. Mais je suis obligé de dire, ah non, elle ne se porte pas bien, donc je suis obligé de... Vous voyez, on est obligé de mentir même parfois pour que la société vous accepte.
Donc vous vous sentez quoi? Vous vous sentez coincé, atypique?
Rejeté par les femmes qui nous voient comme des ennemis, parce que leur émancipation doit se faire à notre détriment. Et de l'autre côté, j'allais dire... pas suffisamment intégré chez les hommes parce qu'on vous voit comme une femmelette. Je m'excuse du pas.
Oui. Voilà. Je précise que vous êtes mariée. Merci Ibrahim de nous avoir appelé. C'est terrible votre situation de ce que vous racontez, mais merci pour votre franchise et pour votre malaise. Est-ce que vous comprenez le malaise d'Ibrahim? Est-ce que, je ne sais pas, Alexandre Devecchio, c'est un malaise qu'on pourrait tout à fait retrouver ailleurs, en France?
Oui, sans doute. Alors moi, je suis pas dans le... voilà. Alors, j'ai assez dit que le féministe victimaire de MeToo m'indisposait pour pas tomber dans une pleurnicherie masculine. Et en plus, je pense que voilà, encore une fois, il y a ce qu'on dit dans les médias et puis il y a ce qui se passe dans le privé. Enfin, il racontait qu'effectivement, il faisait des tâches ménagères. Enfin, les gens s'arrangent dans leur couple. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'un des aspects inquiétants de ce mouvement-là. J'ai eu parfois l'impression que l'État, les journalistes, etc., vous laissent s'immiscer dans la vie privée des gens et les rééduquer quasiment. Je crois qu'il y a quand même des choses. Voilà, ça se passe entre un homme et une femme, c'est un accord, les gens s'entendent, ça peut être complémentaire, il peut y avoir des hommes qui aiment faire parfois des tâches féminines et vice-versa. Donc voilà, ce qui est gênant, c'est cette espèce d'injonction qui vient du haut à vouloir s'immiscer dans quelque chose qui relève de l'intime. Et avec cette contradiction qu'on percevait aussi dans votre micro-trottoir, c'est qu'en réalité, je crois que la majorité des femmes aiment être traitées comme des princesses, mais elles ne veulent pas forcément être en position dominante. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, voilà, la société leur demande d'être aussi performante que les hommes, etc. Donc il y a une espèce de schizophrénie comme ça qui peut effectivement être problématique. On est dans une période où on bouscule tous les repères. Et je pense qu'une société a malgré tout besoin de certains de repères et être soumis en permanence à des injonctions contradictoires. Voilà, ça peut être susciter un certain malaise. Mais enfin bon, on survivra, je pense.
Ah, Ismaël Khalifa, sur ces injonctions contradictoires, sur le fait que finalement Alexandre Devecchio semble dire, mais c'est le propre des débats de société, qu'il y a une partie de ces débats qui relèvent de la vie privée, qui n'aurait pas de place finalement dans la sphère publique, dans le débat public.
Bah, beaucoup d'hommes, pour moi, donc toujours pareil, dans ceux que j'ai pu rencontrer, ont vraiment ressenti l'affaire Weinstein, MeToo, et puis effectivement toute la traduction médiatique de ces affaires comme une forme de rééducation, comme si on leur donnait un mode d'emploi officiel de ce qu'il fallait être à la maison. Et beaucoup d'hommes se sont sentis un peu comme votre auditeur, coincés d'un côté par des injonctions très paradoxales, être doux et dur, être à la fois l'amant présent et en même temps le meilleur ami, bref, qu'on leur demandait d'être 5 hommes dans la même journée, chose qui leur paraissait un peu compliquée, difficile et évolutive. Et puis également coincés vis-à-vis des autres hommes, puisque vous avez quand même persiste chez les hommes, chez beaucoup d'hommes en tout cas, cette idée de, comme on dit, mettre ses parties génitales sur la table, hein, c'est-à-dire d'être de bomber le torse, de montrer les muscles. Et certains hommes n'ont pas envie d'être là-dedans, donc ils se retrouvaient un peu coincés, ils se sentaient un peu coincés au niveau des femmes et un peu coincés au niveau des autres hommes. Donc ce paradoxe-là, effectivement, il a été ressenti par pas mal d'hommes, même si évidemment on est dans une autre culture et que cela se jouait sur d'autres paramètres que ce qu'on a entendu.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? C'est à vous de répondre aussi, bien sûr, les voisins et les voisines. Vous pouvez nous dire aussi ce que vous attendez des hommes en 2018. Réponse avec Bienvenue qui est à Bukavu, 25 ans, pardon, Damien. Damien est à Kigali. Bonjour Damien.
Bonjour.
Damien, vous n'êtes pas rwandais, mais vous vivez au Rwanda, à Kigali. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quel est votre regard d'Africain résident dans un pays atypique, le Rwanda ?
Merci beaucoup de m'avoir sur votre antenne, RFI. En réalité, le Rwanda a pu prendre le pas en termes de l'émancipation des femmes. Je sais que vous êtes au courant que la majorité des femmes sont à l'Assemblée. On a au moins plus d'une soixantaine.
Plus de 60% de femmes, femmes, oui, à l'Assemblée.
Plus de 60% de la femme, et puis au Parlement. Et donc, et le pays venant aussi d'une culture de royauté qui s'est transférée, et puis aujourd'hui, ils essaient de mettre les lois qui permettent d'émanciper les femmes et de leur donner l'autonomie de pouvoir être sur les mêmes pages que les hommes. Et donc, je crois que le fait que cette législation ait marché a quand même donné...
Vous faites allusion, entre autres, à la réforme constitutionnelle de 2003,
à la réforme constitutionnelle,
où il y a des quotas dans les instances de l'État, et puis les dispositifs aussi dans les élections locales qui mettent les femmes systématiquement en tête de liste. Mais du coup, dans la vie quotidienne, que disent les hommes entre eux?
En fait, c'est comme la même chose que vous venez de constater suite à... au rejet de l'amendement de notre constitution dans mon pays d'origine, le Bénin, où, vous savez, je peux dire en quelque sorte que mon pays, quand même, qui prend une certaine symétrie entre par rapport au Rwanda aujourd'hui, pour prendre un certain élan, ils ont mis un projet de changement à l'Assemblée nationale pour modifier notre constitution.
Pour permettre plus de représentativité des femmes.
Comme ce qui se passe au Rwanda.
C'est ça, c'est une loi qui n'est pas votée, si je ne me trompe pas.
Ça a été rejeté, oui, la loi n'a pas été votée. Et donc, en réalité, ce que nous constatons...
C'est la seule similitude avec le Rwanda, parce que je précise quand même que dans votre pays, le Bénin, c'est un pays avec un très large multipartisme, ce qui n'est pas le cas au Rwanda. Alors, lâchons un petit peu la politique pour revenir à la vie quotidienne, là, au Rwanda. Comment vous percevez l'état d'esprit des hommes rwandais, puisque vous n'êtes pas rwandais, peut-être plus libre de parole, je ne sais pas.
Oui, je crois que les hommes rwandais, surtout ceux qui sont éduqués, ont plus de facilité à comprendre le fait que la femme soit mise devant. Mais quand vous écoutez la masse, c'est comme s'ils ont ce sens de c'est les femmes qui nous tiennent maintenant. Et quand quelqu'un vous dit « la femme me tient », ça vous dit beaucoup de choses. Donc, la loi est là, elle marche. Tout le monde sait que les femmes ne sont plus aujourd'hui à chiffonner comme on le faisait avant. Mais derrière ça, je crois que les hommes sentent cette forme de perte de pouvoir. Parce que quand tu es homme, tu es roi. Et donc, et cette forme de privilège qui semble être régalée, je crois que les hommes, dans leur cœur, ne sont pas confortables forcément avec, à travers les discussions. Mais éventuellement, ils doivent faire avec parce que c'est la loi. La loi s'applique à tous. Oui. Et donc, ils sont obligés de faire avec. Et je crois que le revers de la médaille, c'est aussi des cas d'assimilation à des divorces parfois qui viennent que ce qui se passait auparavant. Il y a des études statistiques qui montrent que en réalité, dans la culture endogène, il n'y avait pas... La question de divorce était mal perçue, même ici. Mais aujourd'hui, pour les gens, les citadins, se divorcer, c'est plus un grand problème parce qu'on sait que c'est juste se débarrasser d'une chaussure peut-être ou une autre, si on le dit. Donc, c'est beaucoup plus, comme on le dit... westernisé ou en quelque sorte
occidentalisé.
Occidentalisé en quelque sorte. Ouais.
Merci beaucoup à vous, Damien, de nous avoir appelé. Votre témoignage est intéressant. Vous posez la question, Ismaël Khelifa, dans votre livre. La question fondamentale, c'est pas tout le monde fait à peu près le même constat, c'est-à-dire que quand il y a un embouteillage et quand il y a des femmes qui demandent des places, eh bien forcément c'est difficile de dire avec, c'est forcément c'est poussez-vous, laissez-moi passer, laissez-moi prendre une place. Donc ça se fait forcément à un moment donné contre, hein, sauf si on veut en permanence être politiquement correct. Mais est-ce que c'est si grave de voir s'effondrer le royaume historique des hommes? C'est ça la question que vous posez, Ismaël Khelifa. Vous, qu'est-ce que vous répondez personnellement?
Bien, moi, je pense que ce n'est pas si grave du tout. Je pense qu'au contraire, on est en train de réinventer une façon d'être homme et que quelque part, on est aussi gagnant, nous les hommes, sur certains points. Alors évidemment, si on regarde en termes de pouvoir, partager notre pouvoir, oui, effectivement, bah, les hommes ont dominé la société.
Partager un gâteau, ça veut dire qu'on en a moins.
Oui, bien sûr, mais en même temps, je crois que là, on est dans des sphères très hautes. Enfin, je veux dire, si on parle de politique, par exemple, le partage du pouvoir politique ne concerne finalement qu'une très petite partie de la population.
D'accord, mais forcément, c'est-à-dire voilà. Qu'il y a moins de postes pour les hommes. L'égalité salariale, si les femmes gagnent plus, forcément les hommes vont moins progresser dans leur salaire.
C'est possible, mais je pense qu'en ouvrant, en fait, moi je trouve qu'en ouvrant ce champ de possibilités, en fait, on s'ouvre aussi ce qu'on abandonne quelque part, on peut le regagner ailleurs. Je vous donne un exemple. Une dame parlait tout à l'heure, je crois que c'était dans le micro-trottoir, des nouveaux pères. Elle disait, je trouve ces nouveaux pères, ils ont l'air bien dans leur basket, etc. Et bien moi, je vois qui ont été les pères tels qu'étaient nos grands-parents ou nos propres pères, et les pères que nous pouvons être aujourd'hui, qui sommes des hommes qui avons la possibilité de nous occuper plus de nos enfants, de partager d'autres moments avec eux, de nous ouvrir à leurs émotions.
Vous êtes un jeune
et
papa.
Je suis un jeune
Vous
papa,
dormez très mal.
Je dors très mal, mais je suis un papa heureux qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions à son gamin, et je pense qu'un père présent et ouvert à ses émotions, c'est peut-être une chance supplémentaire pour nous les hommes, mais même sur le plan sexuel. Accepter la virilité traditionnelle est basée sur la puissance sexuelle à tout crin. Lorsqu'on arrive à dire, je perds un petit peu de cette volonté de pouvoir, parce que c'est ça aussi, j'arrive à assumer mes faiblesses, et bien je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui avaient des difficultés sexuelles, qui lorsqu'ils arrivent à en parler, et lorsqu'ils arrivent à accepter d'être un peu plus friables, un petit peu moins dominants, peuvent les régler, être plus heureux dans leur vie sexuelle.
Relâcher la pression, c'est
oui.
Ça
oui, et puis si leur femme leur exprime leur fantasme, au même titre qu'elles expriment leur volonté de réussir dans la vie, eh bien, ça permet de s'amuser un petit peu plus tous ensemble. Donc, je pense qu'on est gagnant aussi sur certains points. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention.
Vous êtes un papa kangourou, vous, dans la vie, là.
C'est quoi un papa kangourou?
Qui porte son bébé, là.
Ah ouais, moi, j'adore ça. C'est ça qui est... Enfin, moi, c'est j'adore faire ça. Bon, en même temps, mon père l'était, donc j'étais éduqué comme ça. Mais ça m'empêche pas d'être un homme qui, lorsqu'un gars parle mal à sa femme, va en plafonner le mec dans le bar, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc je veux dire, il faut qu'on arrête un peu de pleurnicher, on est en train de perdre, c'est terrible, les femmes prennent le pouvoir sur nous.
Soyons justement des hommes un petit peu. Vous sentez aussi masculin que votre papa ou pas?
Mais mon père a fait la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez que moi, qui n'ai jamais tenu une arme, qui n'ai jamais fait le service militaire, sachant que la virilité traditionnelle, c'est d'abord et avant tout la figure du soldat, je sois aussi viril que lui? Comment voulez-vous aujourd'hui que Guillaume Canet soit aussi viril que Jean Gabin? Enfin, il y a un moment où c'est pas possible. On a même inventé des ersatz de virilité. Il n'y a jamais eu autant de super-héros bodybuildés. On a même des hommes robots, Robocop, etc. Ça montre bien qu'on a ce désir de virilité archaïque qui a disparu. Mais on peut reconstituer notre virilité sur autre chose. La virilité, c'est aussi une forme de tempérance, de maîtrise de soi et puis de ne pas avoir peur. Et je trouve que là, les hommes qui ont peur manquent de virilité. Eux qui, justement, disent que la virilité a disparu. Avoir peur comme ça, c'est manquer de virilité.
Alexandre Devecchio, vous disiez moi, je refuse d'être dans la victimisation. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit, du coup?
Non, mais je rejoins à ce qui est dit. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que je crois qu'effectivement, il y a eu énormément de progrès en termes d'égalité, en termes de d'hommes qui sont eux aussi moins obligés aussi d'avoir des responsabilités, puisque l'autorité, ça implique des responsabilités, ça implique la guerre, etc. Donc, tout ça est un progrès, et aujourd'hui, on le nie. On a l'impression, le mouvement Balance ton port, c'est quand même une animalisation de l'homme, c'est vouloir et l'idée d'un mâle blanc dominant occidental. Oui, mais il y avait un côté quand même systématique dans ce mouvement, en plus une forme de délation qui était extrêmement problématique et surtout qui ne reflète pas, à mon avis, l'immense majorité de, enfin, ce qui se passe dans la société, le changement profond de société dans lequel on vit, justement parce que on a une société où, par exemple, dans le travail travail, il y a beaucoup moins de tâches mécaniques qui impliquaient aussi de la force, on parlait de la virilité, etc. Donc on est vraiment, Marcel Gaucher le dit très bien, je crois qu'en fait il parle de syndrome Tocqueville, il dit que effectivement les révolutions arrivent finalement quand l'égalité est déjà là, puisque la moindre inégalité devient insupportable. Je crois qu'effectivement c'est ce qui s'est passé avec ce phénomène MeToo. Et ensuite, il y a, à mon avis, là où il y a de quoi être inquiet, c'est comme toujours dans la radicalité d'une partie de cette révolution. À la fois pour le côté punitif, j'en ai parlé, mais à la fois ceux qui voudraient, sous prétexte d'abolir tous les déterminismes, pour abolir tous les déterminismes sociaux, mais ensuite, effectivement, il y a des différences dans la nature, et c'est ce qui fait la beauté du monde, sa diversité. Et c'est vrai que je regarde de près ce qui se fait dans les universités américaines aujourd'hui, et même françaises, avec la théorie du genre qui explique qu'on peut être un garçon ou une fille si on l'a choisi. À mon avis, l'écriture inclusive, que je trouve, en fait, tout ça devrait être pris avec un grand éclat de rire, pardon. Enfin, que je parlais de l'homme et de la femme de la rue, leur bon sens fait que ça leur paraît délirant. Mais aujourd'hui, il y a des précieuses...
Parler des droits humains au lieu de parler des droits de l'homme.
Il y a des précieuses ridicules,
pardon.
Vous
êtes d'accord ou pas ? Parler des droits humains au lieu de parler des droits de l'homme ?
Non, parce que... Non, parce qu'il y a aussi une tradition, une culture, enfin, l'homme, dans son acceptation universelle, ça ne veut pas dire l'homme, le masculin. Je ne pense pas qu'en changeant le langage, on change les choses.
Mais en quoi ça pose un problème de parler...
Ça, c'est dans les totalitaristes qu'on réécrit l'histoire et que ça ne me pose pas de problème. Mais franchement, si le combat pour l'égalité homme-femme, c'est ça, ça veut dire que les femmes ont gagné la partie. Or, malgré tout, ça, on en a assez peu parlé. Il y a des parties de la société où, pour le coup, il y a encore des violences, des vraies inégalités, etc. J'en ai assez peu entendu parler dans le mouvement MeToo. Donc, c'est un peu gênant qu'on se concentre sur l'accessoire
et pas sur le fondamental. Et ensuite, sur l'explosion des plaintes en justice,
l'idée
quand
de
même.
Droit humain, c'est une chose sur le vocabulaire, mais quand on veut modifier quasiment ce qui relève de la permanence, c'est ce que je disais, quand on les explique qu'un homme et une fille, c'est la même chose, je pense que c'est une révolution, ça peut aboutir à une révolution anthropologique qui est dangereuse. Nos sociétés sont fondées sur la famille, alors je pense qu'il peut y avoir différents modèles de famille, mais ça veut pas dire que... Mais je pense qu'il faut garder une forme de norme, parce que c'est souhaitable pour le bien de la société, pour pas être dans une société ultra individualiste et à la fois uniformisé et indifférencié.
Le besoin humain d'affection, de vie affective. Oui. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on va donner la parole à notre correspondante au Canada, puisque vous nous parliez des universités américaines, Alexandre Devecchio. Ce sera l'occasion de parler des théories masculinistes. Waiting. l'un des symboles de la révolte de l'homme blanc de plus de 50 ans en Amérique du Nord. Sa chaîne YouTube totalise plus d'un million d'abonnés. Beaucoup d'hommes se reconnaissent en lui. Vous nous direz si c'est votre cas d'ailleurs dans le studio. Pour comprendre qui est Jordan Peterson, nous sommes en ligne avec notre correspondante Pascale Guéricolas au Canada. Bonjour Pascale.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors comment Jordan Peterson est devenu célèbre à 56 ans ?
Eh bien, en fait, jusqu'il y a 2 ans, le grand public ignorait tout de la carrière de ce monsieur qui enseigne la psychologie clinique à l'Université de Toronto. En fait, le professeur a commencé à se faire connaître lorsqu'il a expliqué qu'il n'utiliserait pas dans sa salle de cours, alors tenez-vous bien, les nouveaux pronoms personnels neutres dont les militants transgenres font la promotion. En fait, il est de bon ton dans les milieux qui parlent de diversité sexuelle de refuser d'utiliser des termes comme « he » ou « she » en anglais, soit « lui » et « elle ». Alors, en lieu et place, ces activistes ont recours à des mots inventés qui n'existent pas, en fait, en anglais, qui sont « the » ou « there ». Donc, c'est tout nouveau. Jordan Peterson, lui, il ne voulait absolument pas avoir recours à cette formulation qui nie le sexe de la personne, et il l'a fait savoir haut et fort. Du coup, plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer sa conduite. Il a même reçu des lettres de son université lui demandant de ne plus parler de cette polémique. Alors une directive qu'il s'est empressé de ne pas suivre. Second fait d'armes dans la droite ligne du premier, son opposition à un nouveau projet de loi qui a été voté au Canada et qui porte là aussi sur l'identité de genre, donc l'identité de sexe. Le chercheur est férocement contre le fait de considérer comme du harcèlement ou de la discrimination l'utilisation en fait de mots qui permettent de connaître le sexe de la personne. Donc si en fait vous identifiez le sexe de la personne dans une phrase, éventuellement d'une certaine façon vous pourriez vous faire poursuivre pour harcèlement et discrimination. Et pour lui, ça équivaut à imposer une norme aux Canadiens avec des vues idéologiques, et finalement ça contrevient à la liberté d'expression. Alors c'est pas le tout, c'est comme on dit au Canada et au Québec, il dénonce ce monsieur-là aussi les guerriers de la justice sociale. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Selon lui, ces guerriers de la justice sociale ont la mainmise sur les départements de sciences sociales et humaines dans les universités en Amérique du Nord, parce que à l'entendre, il y a des intellectuels qui impose l'idée d'une société dominée par les hommes blancs qui oppressent les femmes. Et selon lui, c'est une vue totalement erronée.
Et ces théories, ces commentaires à Jordan Peterson se retrouvent énormément sur les réseaux sociaux, bien au-delà de l'Amérique du Nord d'ailleurs.
Ah oui, absolument. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, plus d'un million de personnes qui suivent sa chaîne YouTube, essentiellement des hommes. Son livre « 12 règles pour la vie, un antidote au chaos » caracole aussi en tête des têtes de liste de vente aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays européens. Il a été traduit dans une quarantaine de langues. Alors, aux yeux de ses admirateurs, le professeur combat la rectitude politique partout où elle se trouve. Au fond, il ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et ce particulièrement dans des universités du Canada anglophone qui sont très portées depuis plusieurs décennies à défendre les minorités notamment sexuelles. Alors Jordan Peterson n'hésite pas par exemple à nier que l'écart salarial entre hommes et femmes qu'on observe dans la plupart des pays en Occident trouve son explication dans le sexe de la personne. Selon lui, en fait, les femmes seraient moins payées que leurs collègues masculins, tout simplement parce qu'elles n'osent pas aller réclamer une augmentation. Alors elles devraient, selon lui, faire preuve de davantage de détermination, devenir plus revendicatrices, des valeurs d'ailleurs qui, selon lui, sont davantage masculines. Alors ce discours séduit les jeunes hommes, manifestement, et ils apprécient que l'universitaire dénonce la domination qu'exercent certaines femmes sur leurs compagnons, qu'il nie aussi l'existence d'une société dominée par le patriarcat. Donc c'est des thèmes qui leur parlent beaucoup.
Voilà pour le portrait, les idées de Jordan Peterson. Merci beaucoup Pascale Guéricolas au Canada. Très bonne journée à vous.
À vous aussi Emmanuel.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, si vous lisez l'anglais, parce que le livre de Jordan Peterson n'est pas encore traduit en français, je suis étonnée d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs mois qu'il est sorti. Il a publié donc 12 règles pour la vie, un antidote au chaos. C'est toujours bien quand on propose des règles. Hein. Évidemment, ça rassure. Alexandre Devecchio, comment vous vous situez, vous, par rapport à ces théories masculinistes ?
Théorie masculiniste, je sais pas, les règles, moi j'aime pas trop ça parce que ça fait un peu gourou, et justement tout ce qui m'a agacé à travers ce mouvement Balance ton poids, c'est cette volonté de vouloir tout normer, imposer des choses aux gens. Le féminisme punitif m'énerve, c'est pas pour tomber dans le masculinisme, mais je pense que c'est aussi une réaction à une forme d'excès. Et le succès de Peterson est, je pense, le symptôme de l'irritation d'une partie de la population qui ne supporte plus qu'on lui donne des leçons et qu'on tente de la rééduquer. Et après, il y a quand même un sujet de fond. Moi, je trouve ça inquiétant que l'université, qui est censée transmettre le savoir, la culture, modifie la langue. Enfin, très franchement, l'écriture inclusive, pour moi, c'est assez incompréhensible à la lecture. Enfin, imaginez Victor Hugo en écriture inclusive. Je pense que on tuerait des chefs-d'œuvre. Donc voilà. Et puis, dans les universités américaines, c'est quand même extrêmement excessif. On sait que maintenant, des étudiants ont des rapports sexuels entre eux, ils doivent signer un bout de papier pour préciser quels sont leurs désirs et quasiment dans quelle position ils vont faire l'amour. Donc là, on arrive dans quelque chose de quasiment totalitaire qui est effectivement un peu inquiétant et qui peut donner justement une réaction. Et je pense que le masculinisme, c'est une réaction à ces excès-là.
Ismaël Khalifa.
Oui, je rejoins ça. Ça me rappelle un homme que j'ai interviewé qui s'appelle Franck dans le livre et qui, à un moment, alors il a 55 ans, Franck, à un moment, il me dit, alors aujourd'hui, j'ai plus le droit de manger gras, j'ai plus le droit de courir vite, j'ai plus le droit de rouler vite, j'ai plus le droit de draguer. Donc, vu que j'ai plus le droit de rien faire, eh bien, à un moment, qu'est-ce qui va nous rester? Et en fait, cet excès, effectivement, que ce soit des règles masculinistes ou autres, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas vouloir normer les gens, à vouloir leur imposer quelque chose par en haut, parce que effectivement, ça provoque en plus la réaction inverse. C'est ça qui est extraordinaire.
Mais vous vous reconnaissez dans l'expression d'Alexandre Devecchio, féminisme punitif ?
Moi, non. Mais beaucoup d'hommes, effectivement, je trouve, s'y reconnaissent et ont eu la sensation, au-delà du côté punitif, qu'ils avaient eux aussi dans leur vie changé et qu'en tout cas, l'expression médiatique de MeToo, peut-être parce qu'aussi, moi, je trouve, ce mouvement a parfois été par des figures médiatiques très mal incarnées. C'était un peu les nouvelles damnées de la Terre. Ils ont eu l'impression qu'en fait, on ne faisait pas avec eux, alors qu'eux étaient prêts. Aujourd'hui, étaient tout à fait prêts et avaient envie de l'égalité salariale, avaient envie de voir leur femme être épanouie au même niveau qu'eux, etc. Ils n'avaient pas besoin, en fait, de se sentir montrés du doigt. Ils auraient aimé qu'on fasse avec eux aussi. Et je trouve que c'est ça qui est très compliqué, que ce soit avec cet homme, Peterson, ou en face, c'est qu'on est dans des choses, je trouve, extrêmement caricaturales. C'est oui ou non. Or, on voit bien que la vie à deux, la vie entre hommes et femmes, c'est bien plus compliqué que de dire oui ou de dire non à une façon de fonctionner.
Il y a une professeure de sociologie, quand même, pour bien qu'on comprenne l'ambiance dans les universités nord-américaines dont vous parliez, Alexandre Devecchio, qui est prof à la Northwestern University et qui a écrit dans le Washington Post « Les hommes, si vous êtes vraiment avec nous et que vous voulez qu'on ne vous déteste pas pour les millénaires de malheurs que vous avez produits, dont vous avez bénéficié, écartez-vous pour qu'on puisse prospérer sans être vaincu. Promettez de voter seulement pour des femmes féministes. Ne faites pas campagne pour des postes politiques. Ne dirigez rien. Quittez le pouvoir. On s'en charge. » Voilà, on en est là en Amérique du Nord.
Mais là, c'est terrible quand même.
Vous voyez bien le manichéisme absolu.
C'est clair, mais c'était chose. Pour contextualiser effectivement les positions masculines.
C'est ce manichéisme qui fait très mal.
Voilà.
C'est ce manichéisme qui fait très mal dans toutes ces questions. C'est ce que disaient aussi vos auditeurs avant.
Voilà. Et sur un continent où évidemment Donald Trump participe à la cristallisation du débat, mais on pourrait aussi dire évidemment Vladimir Poutine, on pourrait parler aussi du suprémaciste hindou Narendra Modi en Inde. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et qui cartonne électoralement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Allez, on donne la parole à une voisine qui nous appelle d'Abidjan, Rianatou. Bonjour Rianatou, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante.
Oui, bonjour Emmanuel.
Pardon, 22
je
ans. C'est ça. Vous êtes étudiante en droit, vous êtes ivoiro-ghanéenne et vous voulez nous dire un mot sur les différences sur le continent anglophone et francophone dans ce débat-là sur l'identité masculine ?
Spécialement en Côte d'Ivoire, c'est dans la culture francophone. Les femmes, on est obligé de suivre les hommes et tout ce qu'ils disent. Tu ne peux pas en placer un mot. Quand tu dis que tu es une femme, tu dois obéir et c'est ça la règle.
Ouais.
Il t'oblige à faire tout ce qu'il veut et tu ne peux rien dire. Mais dans la culture francophone et anglophone, ça c'est différent. Ils acceptent de partager, ils acceptent de faire des choses que les femmes font. Ils ne parlent pas. Et puis ça, il s'agit de cuisiner, de balayer, de puiser de l'eau. Ils acceptent tout. Mais si quand tu le dis, ils disent non, que c'est hors de question. Tu es une femme, c'est à toi de le faire. Tu es obligé que tu le fasses.
C'est ça. D'accord. Votre constat, vous avez vécu au Ghana et vous dites, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas en placer une. C'est ça, en tant que femme, hein, si j'ai bien compris. Rien à tout. Merci de nous avoir appelé. Nadia nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Nadia.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 27 ans, vous avez un petit ami, vous n'êtes pas encore en couple?
Oui, j'ai un petit ami, mais nous vivons encore séparément pour
d'accord.
le moment.
D'accord. Et alors, comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme aujourd'hui en 2018? Peut-être pour...
Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a l'impression que l'émancipation des femmes nous est donnée en échange de quelque chose. Donc, je prends un exemple. Vous avez des hommes aujourd'hui qui vous disent, bon, écoutez, si vous voulez l'émancipation de la femme, ça va être très simple. À partir d'aujourd'hui, on partage les charges du foyer, par exemple, c'est-à-dire si je paye l'électricité, tu paieras pour le loyer ou ouais. peut-être l'école des enfants si on est amené à en avoir. Si tu veux avoir un droit de regard et un droit de décision dans la maison. Donc, du coup, je trouve que c'est un peu macho parce que je me dis, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était les hommes qui s'occupaient de presque toutes les charges dans un foyer et nos mères n'avaient pas le droit à la parole du tout. Et donc si aujourd'hui on devrait nous donner la parole, mais en échange de ça, faire moitié-moitié dans les charges de la maison et prendre d'accord. une main et voilà, récupérer.
Vous voulez des droits avec un protecteur?
Exactement.
Et ben voilà, ça s'appelle vouloir tout.
C'est ça.
Voilà.
Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre franchise, Nadia, parce que je pense que pas mal de femmes se reconnaissent là-dedans. Est-ce que, je sais, comment vous réagissez, Ismaël Khalifa? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des femmes qui veulent tout?
Alors, beaucoup d'hommes ont l'impression que les femmes veulent tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles ont l'impression aussi qu'elles devaient tout faire avant, mais qu'aujourd'hui, on doit un peu se partager ça. Vous savez, on disait que les femmes avaient 5 journées en une journée. Maman, etc. Femme qui allait travailler. Après, il fallait être la maîtresse, etc. Et beaucoup d'hommes ont aujourd'hui l'impression de vivre aussi ces journées très différenciées.
Il
doit être 5 hommes dans la même journée.
Vous avez récupéré les biberons la nuit, c'est ça, si j'ai bien compris, en tant que jeune papa.
Alors, on fait l'allaitement, mais voilà. Donc, mais sinon, je le ferai effectivement. Donc effectivement, il y a cette sensation-là. Après, la notion protectrice, c'est quelque chose qui est très important dans la virilité traditionnelle. Pas le paternalisme, mais vraiment le côté protection.
Quel avenir elle a, cette valeur protectrice masculine?
Alors, c'est très difficile à dire. Reste que beaucoup d'hommes, en tout cas, je pense, ont la fierté de pouvoir dire qu'ils protègent leurs femmes, qu'ils protègent leurs enfants, qu'ils protègent leur foyer. Parce que vous savez, les hommes, on aime bien avoir des missions aussi souvent. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas désacraliser cette place de l'homme et de la virilité dans le foyer, parce que la protection, c'est quelque chose qui n'est pas, encore une fois, à confondre avec le paternalisme, et que ça peut aussi être noble.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont heureuses d'être protégées, comme votre auditrice. Donc, encore une fois, vouloir tout déconstruire me paraît pas forcément sain. Je pense qu'on est, faut aussi faire confiance aux individus, aux couples, et peut-être pas se mêler de tout, quoi, tout simplement.
Ça s'appelle une réponse libérale.
Ouais, je suis pas super libéral pour ce qui est de l'économie, mais oui, mais c'est aussi, je pense, ce mouvement traduit aussi une certaine impuissance politique, notamment sur les vraies questions. Alors du coup, on s'occupe de l'accessoire, on modifie le vocabulaire, on limite la vitesse sur les routes. Donc tout ça, c'est extrêmement simple à faire, mais je suis pas sûr que c'est ce que les gens souhaitent.
Merci à tous les deux. Merci Alexandre Devecchio, responsable du Figaro Vox, et merci à vous Ismaël Khalifa. Mal d'hier, homme d'aujourd'hui, les confidences du pénis aux éditions du Seuil. À demain.